Tu as reçu le don de la tchatche.
Oui. Oui. Bonjour tout le monde. Ah ben, je suis content d'être là. Hein. Depuis le temps que je me prépare pour cette journée. Et maintenant, ça y est, on y est. Et pour moi, cette journée a une forte importance. Et je me prépare pour cette journée parce que je crois que ce sera pour notre tournée un des moments les plus importants de tout ce que nous allons vivre et tout ce que nous vivons dans les 6 semaines que nous sommes en Europe et surtout en France. Voilà. Donc, j'ai eu la joie la semaine dernière de découvrir mon dernier livre qui est sorti. J'aurais espéré l'avoir en début de tournée. Ce n'était pas le cas. Il y a eu des retards. Mais enfin, je l'ai. Il s'intitule « Quand Dieu se révèle ». Vous allez trouver une certaine partie de ce que je vous apporte ce matin dans ce livre. Je suis vraiment conscient qu'aujourd'hui, il nous faut plus de Dieu dans ce qu'on fait. Je suis conscient que dans beaucoup d'églises, ça stagne. Je suis conscient que nous investissons beaucoup pour peu de résultats, soyons clairs, et on ne peut pas simplement l'accepter. On doit l'aborder, partager, et quelque part, j'ai écrit ce livre dans cette optique-là, « Quand Dieu se révèle ». En tout cas, il est à 12 euros. Si vous n'avez pas de monnaie, il est à 15 euros. Et donc, il y a aussi l'autre livre, un autre de mes livres qui a été utilisé dans la formation « Leader selon le cœur de Dieu ». Et c'est « Les profondeurs du cœur du Père ». Et plusieurs d'entre vous, vous avez l'exemplaire parce que c'était une lecture imposée pour la formation. Mais on a quand même des exemplaires là. Il est à 15 euros. C'est un livre important quand même. Même au niveau de sa taille, mais au niveau de son contenu. Fini les pubs. Denis sera là à la table pendant les pauses, pendant le repas aussi. Et comme ça, vous pouvez obtenir vos exemplaires si vous le souhaitez. Je veux aujourd'hui vous parler de la grâce. Je vais apporter ce matin 2 sessions sur la question de la grâce. Et pour ceux qui peuvent se rendre dans notre culte en commun demain matin, ici dans ce même lieu, j'aborderai encore une autre session sur la question de la grâce. Je crois que ce sont des slogans, des petites phrases que nous utilisons dans nos milieux, par la grâce de Dieu. Je parlais même avec un pasteur hier au téléphone, et puis je lui ai posé une question, et il m'a dit « bien par la grâce de Dieu ». Et il s'est presque excusé d'utiliser cette phrase. « Ah ben tu sais, on dit souvent par la grâce de Dieu ». Et moi, je dis qu'aujourd'hui, on doit revenir à ça. C'est essentiel, c'est fondamental, la question de la grâce de Dieu. Alors, avec notre école, pour notre formation la semaine dernière, j'ai apporté une introduction. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, ce que Paul a dit là. Mais nous allons commencer aujourd'hui avec un autre verset, 2 Corinthiens 6, verset 2 Corinthiens 6, verset 1er. Et je l'intitulerai, ce premier message, « La grâce de Dieu, recevoir la grâce, mais pas en vain. » Mais pas en vain. 2 Corinthiens 6, verset 1. « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. » Alors, premièrement, ce que je dois dire, ici, concernant ce verset, c'est que Paul se positionne avec ce verset. Il dit, je ne travaille pas pour Dieu, je travaille avec Dieu. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que depuis un certain temps, je parle comme ça. je peux dire que tout en respectant tout le travail qui est fait au nom de Dieu, de gens sincères, dévoués, dans tous les milieux, la réalité, c'est que finalement, beaucoup du monde chrétien fonctionne avec un travail pour Dieu. Mais moi, je me pose la question, à quel point travaillons-nous avec Dieu? Parce que travailler pour Dieu signifie que nous n'avons pas besoin de lui. C'est terrible de le dire. Mais nous avons simplement à actionner certaines choses qui font partie de notre engagement chrétien. Et finalement, on peut le faire, que Dieu soit dans la chose ou bien pas. Que le Seigneur me pardonne de dire ça, mais c'est une réalité. Par contre, de travailler avec Dieu, c'est tout autre chose, parce que si on ne sait pas ce que Dieu fait, si on ne voit pas ce que Dieu fait, si on est détaché de cette réalité-là, eh bien, on ne travaillera jamais avec Dieu. Paul se positionne, il dit « Je travaille avec Dieu, je ne travaille pas pour Dieu. » Jésus l'a dit lui-même, « Je fais seulement ce que je vois faire le Père. » Mais non, est-ce que nous pouvons dire ça? Ça nous fait penser, ou réfléchir plutôt. Alors, pour lui permettre de travailler avec Dieu, Paul nous dit deux choses. Premièrement, dans ce verset, il dit, nous devons être capables de recevoir la grâce de Dieu. Ça commence comme ça. La capacité d'être réceptif à une grâce qui appartient au divin, à Dieu. La deuxième chose qu'il dit, qu'il ne faut pas la recevoir en vain. Maintenant, ça, ce sera le sujet que j'aborde tout de suite. Paul est l'apôtre de la grâce. C'est lui qui en parle plus que tous les autres. En fait, Jean, dans ses écrits, n'en parle pas du tout, parce que lui, il préfère le mot « amour ». Mais Paul, c'est la grâce. Plus que tout autre auteur du Nouveau Testament, il en parle. Je cherche toujours à comprendre la grâce. Cette dimension de Dieu qui a touché l'être humain et qui change tout, en fait. Une image qui me revient, et Jésus parle en image, moi j'aime parler en image, de la grâce, c'est les surfeurs en Australie. Moi, je n'ai jamais fait du surf avec une planche, mais j'ai beaucoup fait du body surfing, comme on dit, où on surfe une vague sans planche. Ça, c'est autre chose. J'aime ça. Et ce qui est intéressant dans le body surfing, comme le surf avec une planche, c'est qu'on doit attendre la vague. Tout se joue sur une question d'attraper la vague. Et quand la vague commence à se former, on la voit venir, et il faut se positionner pour pouvoir la prendre. Et à un certain moment, eh bien, il faut commencer à nager avec la vague. On nage avec la vague, et au départ, c'est vraiment l'effort qu'on doit fournir. Vous voyez ? Il y a un effort à fournir, mais à un certain moment, on sent la force de la vague qui prend le dessus, et tu n'en dois plus nager. Tu te laisses simplement porter par cette vague. Je crois que la grâce de Dieu, c'est comme ça. C'est qu'il y a un effort à fournir, c'est vrai, mais c'est afin de pouvoir attraper quelque chose que Dieu fait, et une fois qu'on est dedans, eh bien, on se laisse porter par cette vague-là. Vous voyez ? Donc, c'est quelque chose qui est plus fort que nous, qui demande un effort d'entrer dedans, mais une fois qu'on est dedans, eh bien, on doit se laisser porter par cela. Gardez cette image dans ce que je partage maintenant. Nous avons, bien sûr, la grâce pour être sauvés. C'est la première des grâces, n'est-ce pas ? Tous ceux qui sont nés de nouveau deviennent des enfants de Dieu. Eh bien, on reçut la grâce pour être sauvés. C'est la grâce pour le salut. Elle est donnée d'une façon abondante. Romains 5, verset 17 nous dit cela. Je ne vous ai pas donné, Cindy et Paul, les versets, mais Je crois que vous êtes assez rapide pour pouvoir me les sortir. Romains 5, verset 17, Paul nous dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Ils reçoivent l'abondance de la grâce pour être sauvés. Ça, on le sait. On est ici parce que nous avons cru et nous avons reçu cette grâce et nous sommes sauvés. Au bout de la rue où nous habitons, il y a un parc et dans ce parc, il y a une fontaine. Cette fontaine est accessible à tout le monde. C'est gratuit, on peut boire. Peu importe qui tu es, peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu as fait ou pas fait dans la vie, si tu as soif, eh bien, il suffit de tout ouvrir le robinet et tu peux boire de cette fontaine-là. L'eau, elle coule tout le temps pour tout le monde. C'est la grâce du salut. Peu importe qui tu es, ce que tu as fait, d'où tu viens, que tu sois quelqu'un qui habite à côté ou bien qui est venu de loin, eh bien, si tu viens à cette fontaine-là et tu ouvres le robinet, tu peux boire de cette eau gratuitement. C'est la grâce pour le salut. Elle est disponible à tout le monde. Ensuite, Paul va nous parler de la grâce pour exercer le ministère. C'est une grâce individualisée maintenant. C'est une grâce qui est en fonction de l'appel qui est sur ta vie, sur la vocation céleste que tu as reçue. C'est un appel spécifique qui reçoit une grâce spécifique. Jésus a montré la grâce qui était sur lui en montrant le contraste avec les scribes qui, eux, ne portaient pas la grâce. Il disait que les gens voyaient très vite où il y avait la grâce et où il n'y avait pas la grâce. Il disait, Jésus nous enseigne, pas comme les scribes. Quand Jésus parle, on ne s'endort pas. Quand Jésus parle, on a envie d'en savoir plus. Mais les autres, là, eux, ils nous barbent toujours avec leur discours. Quand il y a cette grâce qui fonctionne au niveau de notre appel, eh bien, les gens sont attentifs, ils la reconnaissent. Mais quand cette grâce n'est pas là, ils le reconnaissent aussi. Donc, c'est quelque chose qui est palpable, c'est quelque chose qu'on peut mesurer. C'est pas juste une théorie. Paul dit concernant l'évangile, il dit « dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce ». Et ça se trouve dans Éphésiens 3, versets 7 et 8, Sandy. Éphésiens 3, versets 7 et 8. « Dont j'ai été fait ministre, parlant de l'Évangile, selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. » Voilà mon appel, voilà la grâce que j'ai reçue pour l'accomplir. Ah, donc ici, on ne parle pas du robinet, de la fontaine. Ici, on parle de toi, l'appel qui est sur ta vie et la grâce que tu as reçue pour remplir et accomplir cette mission. Paul comprenait sa vocation et il savait qu'il avait reçu la grâce pour l'accomplir. Il serait le prédicateur de l'évangile auprès des païens, mais il allait aussi être le bâtisseur de communautés chrétiennes. Ça, il avait ce double appel. Alors il dit ceci dans 1 Corinthiens 3, 10, « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte. » Pourtant, on venait d'apprendre qu'il avait reçu le don de la grâce pour faire connaître l'évangile aux païens. Donc ici, nous avons deux aspects de l'appel de Paul, deux aspects dans lesquels la grâce lui a été donnée. Alors, quand j'ai commencé à réfléchir sur ça, j'ai étudié chaque fois que Paul parlait de lui-même et la grâce qui était sur lui. Et j'ai commencé à rassembler ce que j'appelle maintenant le profil de grâce de Paul. Paul avait reçu la grâce pour son propre salut, c'est évident, on l'a lu. Il a reçu la grâce pour son apostolat. Il a reçu la grâce, il le dit lui-même, avec l'autorité d'instruire et de corriger le comportement des chrétiens. Il a reçu la grâce d'être un maître bâtisseur de l'Église, on vient de le lire. Il a reçu la grâce pour être un ouvrier avec Dieu. Il a reçu la grâce pour être porteur de la révélation du mystère de Christ. Éphésiens 3, versets 2 à 4, on ne va pas le lire. Il a reçu la grâce pour être un ministère puissant. Il a reçu la grâce pour être un prédicateur pour les païens. Chaque fois qu'il dit des choses le concernant, où il y a la grâce qui est concernée, eh bien, il ne prie pas pour ces domaines. Il ne demande pas à Dieu la grâce pour pouvoir travailler efficacement. Il ne la demande pas. Il dit « Je l'ai reçue ». Il sait qu'il peut agir dans ces domaines parce qu'il comprend la grâce qui lui a été donnée en fonction de son appel. Il n'est pas en train de demander ces choses-là. Il est en train de dire « Je les ai reçues ». J'aimerais vous dire que chaque personne ici qui est appelée par Dieu, qui a reçu la grâce, je peux établir pour toi un profil de grâce. Un profil de grâce, je le répète, ce n'est pas quelque chose que tu as demandé à Dieu, c'est quelque chose que tu peux reconnaître en toi, de la part de Dieu. Il y a une grande différence. Il y a des gens qui aimeraient avoir beaucoup de choses de la part de Dieu et le demandent. Mais moi, je ne vous parle pas de ça. Moi, je vous parle de quelque chose que vous avez reçu et qui est maintenant évident dans votre vie. Maintenant, fort de cette pensée, j'ai établi un profil de grâce pour ma femme. Écoute, ça fait 46, bientôt 47 ans qu'on est mariés. J'étais déjà pasteur. On a tout ça. J'ai un peu de recul quand même. N'est-ce pas? Alors, je vais vous dire où je peux identifier la grâce qu'elle a reçue. Rappelons-nous, c'est pas ce qu'elle a demandé, c'est ce qu'elle a reçu. Et ce qu'elle a reçu, on peut le voir par la bénédiction que d'autres ont connue à son contact. Est-ce que vous me comprenez? On vient d'entendre Lauriane remercier Denise, l'autre bout du monde, pour toute l'aide qu'elle a apportée. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quelqu'un qui était au bénéfice de la grâce qui est sur elle. Vous voyez? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Denise, vous allez la connaître dans un instant. Denise a une grâce pour établir et travailler avec une équipe. Elle est vraiment équipe, Denise. Heureusement, moi, je suis au bénéfice de ça, vous voyez. Denise a une grâce dans sa relation avec des enfants. Même dans une grande surface, il y a des enfants qui la suivent. Je ne sais pas comment elle fait. Moi, les enfants me fuient, vous voyez. Je leur fais peur. Mais moi, je leur dis, vous inquiétez pas, vous me faites peur aussi, hein. Mais non, avec Denise, ils sentent vraiment bien. Tu vois, tout de suite, il y a un bébé qui arrive, et puis, ah, puis, bien, dans les bras de Denise. Oh là là. Moi, je prends le bébé, il commence à pleurer, tu vois. Il y a une grâce, là. Elle a une grâce d'enseigner la parole de Dieu, surtout à des enfants. Surtout à des enfants. Elle a une grâce pour former des futurs animateurs pour enfants. Elle fait un travail énorme dans ce sens-là. Elle travaille avec une équipe ici en France. Et ils sont là tout le temps en train de se faire des visios, tout le temps, tout le temps. Je dis, Denise, t'es où? Mais il n'y a pas que ça. Denise, elle a une grâce pour conseiller. Elle a une écoute étonnante. Elle m'écoute. Elle a une sagesse. Elle a une capacité d'adaptation dans le ministère. Et heureusement, moi je connais beaucoup de femmes de pasteurs et je suis vraiment heureux de ne pas être leur mari. Non, mais je le dis, hein. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la capacité d'adaptation comme Denise. Parce que Denise a dû s'adapter à beaucoup, beaucoup de changements dans nos vies à cause de moi. Et là, chaque fois, combien de femmes ici ont dû changer de pays et aller vivre dans un pays où vous pouvez pas parler un seul mot de la langue? Non, pas beaucoup. Combien de femmes de pasteurs ici ont accepté de quitter son pays, sa famille, ses amis, et suivre le mari dans une aventure folle? Pas beaucoup. Denise, oui. Profil de la grâce de Denise, elle gagne la confiance et la faveur des gens. Tout le monde aime Denise. Ouh. Moi, je suis jaloux, hein. Je dis, comment tu fais, Denise? Moi, je crée des réactions. Il y en a qui m'aiment, il y en a qui m'aiment moins. Tu vois. Denise, tout le monde aime Denise. Tu vois. Mais ça, c'est son profil de grâce. C'est la grâce qui est sur elle. Elle n'a pas demandé d'être ça. Elle l'est. Et quand tu comprends que la grâce fonctionne comme ça, tu as besoin de te regarder dans la glace. Te dire, mais qu'est-ce que Dieu m'a donné? Qu'est-ce qu'il a mis en moi? Qu'est-ce qu'il a mis sur moi qui me vient naturellement, que je ne m'en rends même pas compte, mais les gens sont au bénéfice de ce que j'apporte? Voilà la question. Alors, j'ai dit, c'est un exercice intéressant. Étudier un profil de grâce. Alors, je me suis fait moi-même mon propre profil de grâce. Alors, je ne vous dis pas que c'est comme Blanche-Neige où la méchante reine se regarde dans la glace et dit « Miroir, au beau miroir, qui est la plus belle ?» Et puis le miroir répond « Pas toi !» Non, mais j'essaie d'être assez objectif, tu vois. Mais là, j'en reviens pas pour un homme si jeune. Non, mais... Attention, hein, soyez poli. Hein. Pour un homme si jeune, qui au mois de juin prochain va fêter 50 ans d'avoir prêché l'Évangile, publiquement. Pour un homme si jeune. Ouais. Donc j'ai quand même un peu de recul par rapport à l'expérience, vous voyez? Et des choses que je peux dire que tout au long de ces 50 ans, j'ai pu voir Dieu faire des choses que moi, je n'ai jamais demandé. Premièrement, et vraiment, je rends gloire à Dieu pour cela, mais partout où je suis allé, il y a eu des belles conversions, durables. Et ça, c'était ce qui a marqué notre tournée l'année dernière. Le nombre de personnes que j'avais conduites au Seigneur qui sont venus, qui se sont déplacés, qui sont venus nous voir pour simplement me retrouver et me dire merci. Ça m'a vraiment étonné. Et en fait, quand on est rentré en Australie, ils m'ont demandé d'apporter un message. Et alors, j'avais la photo de toutes les personnes que dont j'ai partagé le témoignage. J'avais la photo, j'ai expliqué que ces mêmes personnes sont venues nous voir pendant notre tournée l'année dernière. En fait, la semaine dernière, après deux semaines intenses dans l'Est, eh bien, nous sommes retirés dans la campagne pour 3 jours dans une belle, belle maison de campagne d'un couple que j'ai conduit au Seigneur. C'était en 2023, par visio depuis Brisbane à Paris. Ils sont devenus des amis, ils sont venus de la famille. Mais ça, c'est... Et ça, je dis, Seigneur, je suis Alice au pays des merveilles. C'est vraiment ce qu'il y a de plus beau. C'est vraiment ce qu'il y a de plus beau. Et Dieu m'a permis de voir ça, et je lui remercie. Mais jamais j'aurais pensé que Dieu aurait fait ça pour moi. Mais ce n'est pas tout. Une autre chose qui a marqué ces 50 ans, c'est tous les bâtiments que Dieu nous a donnés. Mais Dieu nous a donné des bâtiments sensationnels. Pour ceux qui ont connu Évry, écoute, il faut le faire, hein, c'est des millions d'euros. Ça vaut des millions d'euros aujourd'hui. Et je me suis battu pendant 2 ans avec l'administration d'Évry pour pouvoir prendre ces locaux. Mais à La Réunion, l'Église catholique nous donnait des églises. Nous donnait des églises, prenez-la. Le curé, je lui ai dit, quelles sont vos conditions financières? Il m'a dit, il n'y en a pas. Vous êtes le peuple de Dieu, c'est la maison de Dieu, allez-y. On était à 5 minutes à pied de la plus belle plage de l'île. On faisait nos baptêmes à 8h du matin dans le lagon, et ensuite on faisait notre culte à côté. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'on a fait comme jaloux? Qu'est-ce qu'on a eu comme jaloux? Et partout, je suis allé. Les bâtiments, boum, comme ça. Dernièrement, en Australie, quand on a quitté la France, en 2020, quand on a quitté La Réunion pour retourner en Australie, on s'était dit, bon, Denise, nos années d'implantation de l'Église se terminent là, hein, on ne va pas recommencer en Australie. Sauf que Dieu, il n'a pas entendu cette conversation. Tu vois. Il n'a pas entendu, non, non. Et puis, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ben, on a recommencé une nouvelle Église, tu vois. Commencé une nouvelle Église. Alors, on avait une vieille bâtisse en bois qui est utilisée pour les scouts. Et puis, c'est là où on a commencé l'Église. Et puis, on a commencé à devenir... C'était un peu trop étroit pour nous. Alors, on a dit, on va commencer à chercher une nouvelle salle un dimanche matin à Brisbane. Eh bien, là, c'est très difficile. Toutes les salles sont prises et il n'y a juste pas. Il y a pas. Au point où il y a beaucoup d'églises qui font leur culte après-midi parce qu'ils ne trouvent pas de salle. Vous voyez? Nous, on a trouvé une nouvelle salle de double de ce qu'on avait en une semaine. En une semaine. J'ai fait l'annonce un dimanche matin. Si quelqu'un connaît quelqu'un, le dimanche suivant, j'ai dit, maintenant, c'est bon. On a. Dans la semaine qui a suivi, il y a quelqu'un qui est venu. On a eu ça tout le temps. Les finances me poursuivent. Oui, oui. Alors, si vous voulez un prêt, ne venez pas ici, hein, parce que... Non. Mais je ne vais pas vous raconter des histoires, mais franchement, Mayotte, comment est-ce qu'on a commencé Mayotte? Vous savez comment on a commencé Mayotte? Avec quelqu'un en Australie que je ne connais pas, que je n'ai jamais rencontré, qui nous a payé pendant 2 ans tous les billets d'avion pour que Rodolphe et d'autres puissent aller là pour soutenir Nana dans cette œuvre d'implantation d'église à Mayotte. Et aujourd'hui, eh bien, notre église à Mayotte, c'est la plus grande église de l'île à part les églises catholiques. Vous vous rendez compte? Et ça a été financé par l'Australie, par quelqu'un que je ne connais même pas. Ça, c'est juste une chose parmi tant d'autres. Une autre chose qui a marqué ces 50 ans, c'est que j'avais vraiment besoin de comprendre la mentalité de l'esprit laïque français. Et français, ce n'est pas le plus facile à convaincre. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, un français, ce n'est pas un américain quand même. Hein. Alors, j'ai dit, comment je vais gagner le français? Et moi, j'ai l'impression que le Seigneur m'a donné une capacité de comprendre. Je ne sais pas moi. Et puis les gens me le disent. Tu vois. Et puis je l'ai vu dans la rue. Où les gens s'ouvraient. Parfois, j'avais 100 personnes autour de moi, devant les facs, des professeurs et des étudiants. Et quand il y a quelqu'un qui essaie de me chahuter, les autres le disaient de se taire, parce qu'ils voulaient savoir où je voulais en venir. Et quand je vois ça, je dis, Seigneur, je ne t'ai jamais demandé ça. Autre chose, tout au long de ces 50 ans, il y a eu quelquefois des véritables miracles de dos guéris, de miracles graves, de dos, d'infirmité de dos je ne parle pas de quelques courbatures après 2 heures de jardinage, je parle de choses sérieuses au niveau du dos, et puis là, il y a eu des guérisons. Pourquoi là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Susciter des ministères, lancer des ministères, on l'a fait ça pendant toutes ces années. Et partout en France, il y a des hommes et des femmes qui sont en place, dans des églises, en train de conduire des belles églises que nous avons lancées dans le ministère, depuis le début. Je n'ai jamais demandé ça, il fallait le faire, c'est tout. Le besoin était là, Antoine, hein? T'es là. Quelqu'un m'a dit récemment, Vincent, le Seigneur t'a donné une capacité de voir des choses dans la parole de Dieu que les autres ne voient pas. Je dis, comment ça? Tu nous sors des trucs qu'on n'a jamais vus, et pourtant c'est là. Ben moi je dis, ben dans ce cas-là, c'est une grâce. Parce que je n'ai jamais demandé ça. Et puis l'implantation des églises, eh bien, c'est tellement notre truc qu'on a essayé de s'en défaire, et puis ça court après nous, tu vois. C'est dans le sang. Mais tout ça, si je vous dis ça, ce n'est pas pour dire, attention, tu sais, on est quelqu'un de bien. On n'est pas. Moi, je vous dis tout simplement que nous avons fait ce qu'il fallait faire et on a vu Dieu et la grâce de Dieu de se manifester. Voilà, c'est ça ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire, si je peux identifier un profil de grâce pour Paul, à cause de ce qu'il dit, si je peux identifier un profil de grâce pour Denise, parce que je l'ai vu pendant 46 ans fonctionner, Si je peux établir un profil de grâce en ce qui me concerne moi, parce que je connais aussi bien ce que Dieu a fait avec ma vie, eh bien, je peux vous dire, chacun d'entre vous, vous pouvez aussi établir un profil de grâce. C'est pas ce que vous demandez, c'est pas ce que vous aimeriez être, c'est pas ce dont d'autres vous rendent jaloux, c'est pas ça. C'est aujourd'hui ce que vous êtes et comment les gens ont été bénis à votre contact. Eh bien, là, vous allez pouvoir dire, eh bien, la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Alléluia. Alors, maintenant, Paul dit, ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. C'est un avertissement. On peut la recevoir, mais en vain. Donc ça, c'est 2 Corinthiens 6, verset 1. Et si nous lisons maintenant 1 Corinthiens 15, verset 10, saint dit, 1 Corinthiens 15, verset 10, nous retrouvons la même pensée de Paul concernant la grâce. Il dit ceci, « Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. » Il le dit deux fois, il le dit dans 1 Corinthiens 2 Corinthiens 6, 1, et il le dit, 1 Corinthiens 15, 10, cette notion de recevoir la grâce vaine ou pas vaine. Le mot grec qui est traduit vaine ou vain a plusieurs significations. Il parle du sens du vide, de paroles sans substance, de l'absence de fruits. Est-ce que vous m'entendez? De l'absence de fruits. Nous parle d'être sans résultat, sans qualité. Je me suis dit, mais comment est-ce possible que Dieu déverse sa grâce, on reçoit la grâce et elle est vaine. Que la grâce que nous avons reçue, c'est des paroles sans substance, on est sans fruits, sans résultat, sans qualité. Comment est-ce possible que la grâce de Dieu qui est donnée soit une grâce gaspillée? Et moi, je suis convaincu que ça, c'est là où le bât blesse. Je suis convaincu que notre problème, ce n'est pas un problème de ne pas avoir reçu la grâce, mais de l'avoir reçue en vain. Ça m'a tellement troublé, cette pensée, depuis des mois, que j'ai essayé de comprendre de quoi Paul nous parlait. Mais que voulait-il dire par ça? Où sont les exemples de gens qui ont reçu une grâce et que cette grâce, ils l'ont reçue en vain? J'ai pu identifier 5 scénarios. Je les tire et des Écritures et de mon expérience de pasteur. Les cinq scénarios de chrétiens qui reçoivent la grâce, mais la reçoivent en vain. Le premier, c'est de recevoir la grâce et ensuite la rejeter. Ah oui, comme les Galates, qui sont retournés dans le passé, ayant reçu la grâce, ils l'ont refusé, ils l'ont rejeté, ils sont retournés vers la loi. Il a dit ceci, Paul nous dit ceci dans Galates 5, 4, « Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification par la loi, vous êtes déchus de la grâce. » Fort ça. Ils l'ont rejeté, tout simplement, l'ayant reçu. Deuxième scénario possible. Ayant reçu la grâce, ils ne repèrent plus la grâce. C'est comme si ils l'ont reçue et après elle est dissipée. Parce qu'à partir de ce moment-là, tout est grâce. À partir de ce moment-là, il n'y a plus de différence entre ceux qui ont de la grâce, qui est porteuse de grâce, et ceux qui ne l'est pas. Ils sont capables de chanter un chant qui est rempli d'onction et qui nous porte au ciel, et puis ensuite, tout de suite après, ils nous font chanter un chant qui n'apporte strictement rien. Et ils ne font pas la distinction entre les deux. Ils sont capables d'entendre un message qui va stimuler, toucher le cœur et motiver, et puis ensuite nous raconter n'importe quoi dans le message suivant. Et ils ne font pas la distinction entre les deux. Ils dissipent la grâce. Ils réduisent la grâce à des mots creux, comme dit Jude, des nuages sans eau poussés par les vents. Des gens qui promettent beaucoup, mais qui ne produisent pas grand-chose. Ils ne sont pas capables de distinguer quand la grâce se manifeste et quand elle ne se manifeste pas. Moi, je suis particulièrement sensible à ça. Quand il n'y a pas la grâce, il n'y aura pas Vincent. Hein. Peu importe qui c'est. Parce que franchement, vous savez, on a dû, je ne rentre pas dans les détails, mais on a dû subir des réunions, vous savez. Il y en a d'autres ici qui ont dû subir des réunions. Pas ici, Antoine, hein? Pas ici, non, pas ici. Non. Mais vous savez, si vous devez subir une réunion qui n'a pas de grâce, merci Seigneur. Si. Écoutez, Moi, je mets la barre haute, tu vois. On doit mériter le droit d'être écouté. On doit mériter le droit d'être écouté. J'étais dans une réunion. Le prédicateur a été tellement compliqué qu'il a perdu tout le monde. J'ai regardé à droite, j'ai regardé à gauche, tout le monde était sur le portable. Filmé. Moi, je mets la barre haute. Je suis venu d'un milieu traditionnel où on avait des homilies tous les dimanches. Le prêtre, il a été remarquable dans sa capacité de nous ennuyer chaque dimanche. Moi, je parle aux prédicateurs aujourd'hui, ceux qui ont la responsabilité d'une réunion. Il faut que cette réunion, si elle a lieu d'être, il faut que cette réunion soit la meilleure possible. Moi, je dis toujours, ma réunion la plus importante, c'est la prochaine. C'est la prochaine. Je ne me permets pas de simplement faire une réunion. Je ne me permets pas. Parce que cette question de la grâce, je ne veux pas simplement la dissiper. Troisième scénario. Ayant reçu la grâce, on la réduit à un concept théologique. Les théologiens aiment discuter sur la grâce. Étienne, t'es où? Un exemple, hein? Oh, la grâce! Et ils écrivent des tomes et des tomes et des tomes sur la grâce. Et ça devient un sujet de discussion. Ça devient un sujet où chacun a son opinion et puis chacun a sa théorie sur la grâce et on en parle. Mais Paul, il dit, ce sont des discussions inutiles. Parce que la grâce, ce n'est pas quelque chose qu'on discute, c'est quelque chose qu'on doit vivre. Elle doit être incarnée, cette grâce, dans nous, dans nos réunions, dans ce que nous vivons ensemble. Quatrième scénario, la grâce n'est plus nécessaire. Je l'ai reçue, mais je peux faire sans. Ah oui, moi j'ai entendu des prédicateurs contemporains qui ont dit ceci. Comme Moïse a reçu le modèle du tabernacle de la part de Dieu et que c'était à lui de la construire, eh bien, nous, pasteurs, maintenant, nous avons reçu le plan de l'Église, la construction de l'Église, et à nous, maintenant, de faire. Ah bon? Donc, Dieu a plus besoin de nous que nous avons besoin de lui. C'est ce qu'il nous disait. Dieu a plus besoin de nous que nous de lui. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné le plan. Vas-y, voilà le plan, et bien, maintenant, vous faites. Et quand je vois ça, il dit, mais on n'a plus besoin de la grâce. Et ça, c'est insupportable. Cinquième scénario. C'est d'être établi dans le salut par la grâce. Ils ne font rien. Ils sont non productifs. La vie est comme ceux des non-croyants. Ils sont heureux dans leur vie, avec ou sans Dieu. Et Paul, au contraire, il a dit, ayant reçu la grâce, qu'il a travaillé plus abondamment que tous. La grâce, ce n'est pas pour ensuite se reposer, mais la grâce, c'est pour se mettre au travail et être productif, pour être à la fin de dire, Seigneur, tu m'as donné ça, eh bien, je te les rends. Et j'ai reproduit le même montant. Tous ces scénarios que je vous ai présentés là, c'est des scénarios qui disent il ne faut pas recevoir la grâce en vain. Alors, pour éviter de recevoir la grâce en vain, la chose la plus importante, c'est d'être dans l'attente de la grâce. Dans une attente, de compter sur un Dieu qui viendra au milieu de nous, un Dieu qui agira au milieu de nous. Mais l'attente de la grâce, ce n'est pas la projection de nos désirs. Et je lutte avec ça, parce que je suis dans un monde chrétien où on projette tellement de choses qu'on veut voir de la part de Dieu. Dieu fait ci, Dieu fait ça, et on parle de réveil, et on parle de visitation, et Dieu... Il y a une projection, mais la projection n'est pas une démonstration de grâce, mes amis, mais plutôt une notion de Dieu ne fait pas, mais si on lui demande, il le fera. Mais comment peut-on penser comme ça si on est dans une attente de la grâce qui est présente au milieu de nous? Une grâce qui est là aujourd'hui, et puis on a un Dieu qui est là, qui est présent, et qui est agissant. Jésus a dit, car mon Père agit jusqu'à présent, et moi-même j'agis. Mais si on est toujours en train, Seigneur fais ci, Seigneur fais ça, donne-nous ceci, donne-nous cela, et la projection de tout ce qu'on voudrait voir, Dieu, c'est que nous ne voyons pas ce que Dieu fait. C'est comme si Dieu ne fait pas, et on lui demande de faire. Et Dieu dit, mais je fais, sauf que vous ne le voyez pas. Je fais, mais vous ne le voyez pas. Seigneur, fais ! Je fais. Mais ce n'est pas comme vous le pensez. Le problème de la projection. Quand nous ne recherchons pas ce que Dieu est en train de faire, eh bien, nous projetons ce qu'on aimerait qu'il fasse. Nous avons imaginé ce que Dieu devrait faire. Et nous pensons que c'est à nous. Par notre vision, par notre foi, par nos prières, par nos jeûnes, par nos projets, par nos prophéties, par notre persévérance, de faire en sorte que Dieu le fasse. Parce qu'on a décidé qu'il le fasse, qu'il va le faire, et donc maintenant, on le projette. Et quand ça ne se produit pas, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on met pression sur nous-mêmes et sur tous les autres. Il faut faire plus! Il faut plus de prières, plus de jeûnes, plus de repentance, plus, pour que Dieu fasse. Et Dieu, il dit, moi, je ne suis pas dans votre truc. Vous priez tout ce que vous voulez. Ce n'est pas moi qui vous ai demandé de faire ça. Et après, quand ça ne se passe pas comme on veut, alors on essaie de couvrir pour Dieu, tu vois. Gloire à Dieu, c'est merveilleux ce qui se passe. Ah bon? C'est merveilleux? T'as une drôle d'idée du merveilleux, hein? Moi, je me souviens, quelqu'un qui... Il y a comme une culture, certainement en Australie, pas ici en France, bien sûr, mais une culture du superlatif, tu vois. Culture du superlatif. Ça veut dire qu'il faut toujours que tout soit le plus beau, le plus grand, le plus puissant, le plus glorieux, le plus magnifique, le Dieu plus, tu vois. Et alors, la réunion avait commencé, et puis le meneur est arrivé, il a dit, « Quelle présence glorieuse il y a ici aujourd'hui. » Moi, j'ai regardé Denise, j'ai dit, « Est-ce que je suis à côté de la plaque, moi ?» Il m'a dit, « Mais c'était n'importe quoi. C'était bien, c'était une réunion, mais quelle présence glorieuse qu'il y a parmi nous. » Tu vois, ça, c'est le superlatif. Il faut toujours parler comme ça, parce que Dieu ne fait pas ça. Mais si on parle comme ça, eh bien, peut-être Dieu nous rattrapera. Tu vois. Projection. J'étais jeune pasteur des jeunes dans une grande église en Australie. Et puis les anciens ont décidé de faire 3 jours de jeûne et de prière. Et je dis ceci en expliquant que je suis un homme de prière. Hein. Je veux que vous le compreniez. Je me donne à la prière. Mais je me donne à la prière, pas dans une projection de ce que je veux que Dieu fasse. Et j'étais là et j'ai pas été invité en tant que le petit pasteur des jeunes. J'étais pas invité à la réunion ou les 3 jours de jeûne et prière des anciens de l'église. Et pendant ces 3 jours, ils sont sortis de ces 3 jours convaincus que Dieu leur avait parlé d'acheter un bus, de l'équiper pour préparer pour le réveil qui allait frapper la ville de Brisbane et l'État de Queensland en Australie. Bon. Alors, convaincus de cette pensée, ils ont acheté un bus, ils l'ont vidé de tous les sièges et de tout, et ils l'ont équipé avec le dernier cri audiovisuel. C'était dans les années 70, c'était l'époque des cassettes, des cassettes vidéo, vous vous souvenez de ça? Non, vous vous souvenez de pas? Et puis, alors, mais les années 70, ça c'était dernier cri, tu vois, nous avons des cassettes vidéo, wow. Et alors, ils avaient tout monté, tout ça, ça coûte une fortune, leur truc, là. Mais ils étaient prêts pour le réveil, vous voyez. Alors, ils allaient avec le bus, aller dans des stades ou plein air, et puis ils allaient pouvoir faire la projection, et tout fonctionnait à partir du bus. Et puis, des grands rassemblements partout à Brisbane, tu vois. Ce bus a coûté une fortune. Il n'y a pas eu de réveil, il n'y a pas eu de grand rassemblement, il n'y a pas eu de grand, grandes manifestations dans les stades. Je crois que le bus a servi peut-être pour un ou deux camps familiales pour l'église. C'est tout. Et après, ils ont dû le vendre à perte. Où était le problème? Projection. Projection. Et Dieu ne se sent pas du tout engagé quand le peuple, son peuple font la projection. On aimerait voir si, on va voir ça. Alors, l'expectatif, c'est très différent. L'expectatif d'un Dieu agissant, alors ce n'est pas du tout la projection. Et c'est pour ça que moi j'aime la pêche. Parce que la pêche, tu vas là et puis tu ne sais pas ce qui va sortir de l'eau. Même les meilleurs pêcheurs qui ont tout l'équipement, ils ne savent pas ce qui va sortir de l'eau. Mais on est dans l'expectatif. Alors les gens qui ne comprennent pas la pêche, ils disent « Oh, moi je ne pourrais jamais faire la pêche, je n'ai pas la patience. Je vais m'ennuyer après 5 minutes. » Ils ne comprennent pas. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est particulièrement patient. Mais je peux passer 3 heures dans ma barque, rien attraper et passer un super moment. Comment est-ce possible? Parce que je suis dans l'attente de la touche. Et chaque fois que je mets la pas sur l'hameçon, je suis dans l'attente de la touche. Et aujourd'hui, quand on apporte cette expectative à notre relation avec Dieu, je me lève chaque jour et je dis, Dieu, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Dieu, je sais que tu vas faire. Tu es agissant. Tu agis toujours, jusqu'à présent. Moi-même, j'agis, Jésus a dit. Donc, tu agis. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Je viens à une réunion. Seigneur, ce n'est pas une réunion, c'est une occasion. Une occasion de te voir à l'œuvre. Une occasion de voir quelque chose se faire. L'expectatif joue un rôle énorme. Avec le Seigneur. C'est la foi. C'est la foi qui dit, Dieu nous a donné des promesses et ces promesses sont pour nous et sont pour nous maintenant. Et quand c'est comme ça, ah ben c'est une aventure avec Dieu. Il dit ceci dans Ecclésiaste, un verset que j'aime beaucoup, Ecclésiaste 11, 5, il dit, comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte. Tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu. Je ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Alors ne me dites pas que tu connais parce que moi je ne connais pas. Et si moi je ne connais pas, toi tu ne connais pas non plus. Et ça veut dire que nous pouvons vivre une découverte de ce que Dieu fait. Et j'accepte que je ne comprends pas l'activité de Dieu, je ne la connais pas. Et Dieu me dit pas d'avance ce qu'il va le faire. Il dit, Vincent, je te laisse le découvrir. Je te laisse découvrir. Et quand je suis dans cette optique, eh bien là, je peux... Oui, Antoine, qu'est-ce que tu veux?
Le café et la grâce.
Je termine. Merci. Je termine. Pendant 7 ans, j'ai fait un tableau. J'ai fait un tableau dans la place d'Évry. Je ne savais pas qu'en faisant le tableau, il y avait une femme qui gérait un magasin de cadeaux. Elle m'écoutait. Derrière sa porte, elle se cachait. Je ne le savais pas, mais pendant 7 ans, elle m'écoutait. Après un certain temps, elle avait entendu toutes mes histoires. Elle connaissait une femme qui était chrétienne, qui l'a invitée à son église. Elle est allée avec elle. Et cette dame, qui était gérante, en arrivant à l'église, elle était sous le choc de découvrir que l'homme qui conduisait cette réunion était celui qu'elle avait écouté depuis 3 ans, qui était sur la place publique. Elle a donné sa vie à Jésus ce jour-là. Quelques semaines plus tard, on l'a baptisée. Elle a rejoint notre église. Est-ce que Dieu m'a dit ce qu'il se faisait? Non. Est-ce que je le savais? Non. Est-ce qu'il le faisait? Oui. Et quand tu comprends ça, eh bien là, tu travailles avec Dieu. On va prier. Seigneur, merci. Car tu n'es pas indifférent à ce que nous vivons. Et nous te bénissons, Seigneur, pour toute ta grâce. Pour toute ta grâce et ce que tu fais parmi nous. Merci, Seigneur. Amen.